Il est bientôt 9h sur France Culture. 9h très exactement et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pour ceux qui en doutaient, la planète brûle et plus vite que prévu. Le monde doit engager des transformations rapides et sans précédent si l'on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Au-delà de ce seuil, les membres du GIEC, les experts climat de l'ONU, alertent ce matin sur des risques accrus pour la planète, des vagues de chaleur à des extinctions d'espèces, déstabilisation des calottes polaires, source de montée des océans sur le long terme et de migration climatique. Pour la climatologue Valérie Masson-Delmotte, qui a participé à la rédaction de ce rapport du GIEC depuis la Corée du Sud, il y a urgence et la politique des petits pas ne suffit plus.
Ça veut dire agir à l'échelle des grands systèmes, les systèmes énergétiques, les systèmes de gestion des terres, de production agricole, de gestion des forêts, les systèmes urbains, les systèmes industriels, les grandes infrastructures. Ça veut dire qu'il faut sortir très rapidement de l'utilisation du charbon, limiter l'utilisation du pétrole et du gaz et déployer le plus vite possible toutes les sources d'énergie décarbonées. Mais surtout, le rapport met en avant un point qui est important. Il y a plein de trajectoires possibles. Elles dépendent des contextes, elles dépendent des choix politiques. Mais les trajectoires qui agissent sur la demande d'énergie, c'est-à-dire éviter le gaspillage, être efficace, être sobre, ce sont ces trajectoires-là qui optimisent les bénéfices de l'action vis-à-vis du climat et de tous les aspects du développement durable qui visent à améliorer la qualité de vie pour tous. On peut le voir comme un enjeu de réorientation des investissements aujourd'hui pour en avoir les bénéfices demain et pour éviter d'être piégé dans une situation où on va passer de gestion de crise à gestion de crise. On peut parler par exemple du manque d'eau dans certains endroits, on peut parler des crises sanitaires liées par exemple aux vagues de chaleur, on peut parler de la question de la submersion des côtes en relation avec la montée du niveau des mers. Et donc la question qui est posée par ce rapport, c'est la question de l'action aujourd'hui pour éviter de piéger les jeunes générations d'aujourd'hui dans un monde qui dépassera 1,5 degré de réchauffement et les obliger à recourir à des solutions qui sont potentiellement risquées, par exemple pour extraire du dioxyde de carbone de l'atmosphère.
La climatologue Valérie Masson-Delmotte ce matin. L'extrême droite va-t-elle prendre le pouvoir au Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine? Jair Bolsonaro, député nostalgique de la dictature militaire, a surpassé les espoirs de son camp en recueillant plus de 46% des voix hier au premier tour de la présidentielle. Il se retrouvera le 28 octobre prochain face à Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs de gauche qui a fait lui 29%. Duel incertain donc dans 3 semaines face à face symptomatique des divisions au Brésil. Jair Bolsonaro, connu pour ses déclarations homophobes ou misogynes, mais aussi pour son envie de changer la manière de faire de la politique, a obtenu plus de la moitié des voix dans les États de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, les plus riches du pays. Son adversaire, Fernando Haddad, l'a emporté dans les États pauvres du nord-est du Brésil, fief électoral de son mentor, l'ex-président Lula, emprisonné pour corruption, les Brésiliens rejetant en bloc de telles pratiques. Présidentielle également hier au Cameroun, l'inamovible Paul Biya, au pouvoir depuis 36 ans, est donné grand favori. Le dépouillement pourrait prendre jusqu'à 2 semaines. Ce scrutin a été émaillé d'incidents dans les régions anglophones du Cameroun où certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir leurs portes. En France, une semaine cruciale s'ouvre pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe avec l'annonce d'un remaniement dont l'ampleur et le calendrier sont encore flous. L'exécutif veut tourner la page d'une rentrée chaotique dont l'un des derniers points culminants fut la démission de Gérard Colomb. Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroports de Paris, dit s'attendre à ce que le processus de privatisation du groupe aéroportuaire se clôture à la fin de l'année. Tout dépendra, dit-il ce matin, du processus parlementaire et du niveau d'empressement du gouvernement. Qu'est-il arrivé à Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien critique du pouvoir à Riyad, a disparu mardi dernier à Istanbul et selon la police turque, il aurait été tué à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Ankara demande des explications à Riyad et les États-Unis devraient en faire de même. C'est ce qu'estime Eli Lopez, rédacteur en chef de la rubrique Opinion du Washington Post, journal pour lequel Jamal Khashoggi collaborait régulièrement.
We are deeply concerned.
Nous sommes vraiment très inquiets. Si les informations qui ont été révélées dans un premier temps par les autorités turques sont vraies, alors nous faisons face à un horrible crime. Si Jamal Khashoggi a été ciblé pour son franc-parler et ses critiques constructives, c'est un message terrifiant pour les journalistes du monde entier. Nous appelons toutes les autorités à coopérer. L'Arabie Saoudite assure qu'elle aide des enquêteurs sur place. Nous espérons que c'est vrai. Et nous demandons au gouvernement des États-Unis d'appeler à une enquête complète et transparente. Nous espérons avoir des réponses le plus tôt possible.
Ilaï Lopez, rédacteur en chef au Washington Post, joint par Pauline Simonet. Lui est porté disparu depuis plus de 10 jours. Meng Hongwei a démissionné de la présidence d'Interpol. C'est ce qu'a annoncé hier soir l'Organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon. La Chine, elle, sort de son silence et annonce officiellement qu'une enquête pour corruption a été ouverte contre Meng Hongwei. Le temps de ce lundi 8 octobre, pluvieux dans le sud-est de l'Hexagone, plus ensoleillé au fil des heures dans le reste du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 16 et 18 degrés de la Bretagne jusqu'à la frontière belge ainsi qu'en Aquitaine, comptez de 19 à 23 degrés partout ailleurs. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.